Dans le cadre du Festival Ciné Franco à Toronto, l'organisme Tournée Québec Cinéma nous apporte 4 films. Antoine Frenette, responsable de la Tournée Québec Cinéma.
La Tournée Québec Cinéma, ça existe depuis 20 ans et on se promène dans le Canada à travers les communautés francophones pour montrer le meilleur du cinéma québécois. Et ici à Toronto, on aura l'occasion de présenter Une femme respectable de Bernard Raymond et Rodéo de Joël Desjardins-Paquette, entre autres. Dans le cadre du Festival Ciné Franco, duquel on est partenaire depuis de nombreuses années. Donc, l'essentiel de ce qu'on fait est dirigé vers les communautés francophones. C'est d'abord, avant tout, pour eux qu'on le fait, parce que dans bien des cas, c'est un désert au niveau de l'offre du cinéma en français en salle, et c'est encore plus vrai pour le cinéma québécois. Donc, on est là pour abolir les frontières et permettre au cinéma du Québec de sortir un peu de la province. Mais après ça, c'est sûr qu'on a envie, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Fait qu'on a envie que les gens se joignent à la fête. C'est pour ça qu'à Ciné Franco, tous les films sont sous-titrés en anglais. Donc, la porte est grande ouverte à tous et à toutes.
Ces deux films passent au cours de leur récit en Ontario, que ce soit en hors-champ, un peu fantasmé, ou carrément dans les paysages qui défilent. Avec Joël Desjardins-Paquette, on parle de la fabrication de son long-métrage, et avec Bernard Raymond, on parle plutôt fresques historiques et trajectoires des colons francophones du Québec à l'Ontario. Maintenant, je m'en viens à vous, Bernard Raymond. Dans votre film, justement, on parle un peu de l'Ontario. Moi, j'ai eu l'impression que ça représente comme un Eldorado d'affaires, comme un lieu de possible évolution, pas forcément sociale, mais en tout cas de travail pour le personnage. Est-ce que c'est une représentation qui était celle des années 30? Est-ce que c'est une représentation qu'on a aujourd'hui?
Dans les années 30, l'Ontario, c'est une sorte de refuge. En fait, à partir du début du 20e siècle, quand des Québécois qui n'avaient plus de terre ont quitté la vallée du Saint-Laurent pour l'Ouest canadien, le long de la route 11, il y a un chapelet de villages et de petites villes francophones, c'était pas un refuge, c'était pas l'Eldorado, là. Il fallait y aller. Il n'y avait pas de travail. On espérait pouvoir bûcher là-bas ou travailler dans les usines, alors c'est ça qui les a amenés. Hein. Et puis bon, on n'était pas les seuls. Il y a des Finlandais, il y a des Croates. À côté de Hearst, il y a un petit village, il y avait, ça n'existe plus, un petit village croate, Bradlo. Et les gens sont tous partis. Il y avait aussi un village ukrainien. Et c'était pas l'Eldorado, parce qu'on arrivait là, dans le nord de l'Ontario, dans les années 10, 20, 30. Des terres en bois de boue. Le train nous laissait sur le côté de la voie ferrée. Et puis bon, ben, votre lot se trouve là, 3 km, et elle est défrichée. Alors Eldorado, non. Mais une porte de sortie, certainement. Et ce qui est formidable, les Croates sont partis, les Ukrainiens sont partis, mais les Canadiens français, eux, sont restés. Aussi quelques Finlandais, je pense. Alors, ils sont aussi fous que nous. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette histoire-là qui reproduit un peu l'histoire qui s'est passée du côté québécois en Abitibi. Des colons qui ont quitté la vallée du Saint-Laurent parce qu'on n'y trouvait plus de terre et qui sont allés essayer de survivre là où il y en avait. Mais évidemment, dans le nord-est ontarien, c'est pas les meilleures terres agricoles du monde. Alors, on a bûché, on a travaillé dans les usines. Et puis, il est quand même né de ça, un chapelet de village, puis un... c'est sûr qu'il y a probablement plus de francophones autour de Toronto que dans le nord-est ontarien, mais dans le nord-est ontarien, il y a vraiment des liens très forts avec le Québec.
On sent cet amour de l'histoire dans vos films. Le contexte historique, c'est extrêmement présent et il parle presque autant, voire plus que les personnages, notamment dans leur situation sociale qui déteint sur les relations humaines. Je voulais aussi parler du fait que c'était une adaptation du livre de... Alors, je ne vais pas écorcher son nom, Luigi Pirandello. Vous expliquez que vous avez choisi un contexte historique qui vous plaît. Comme vous venez de l'expliquer, on sent que c'est quelque chose qui vous passionne. Mais comment vous avez choisi les dialogues et les échanges, enfin les relations humaines? Qu'est-ce que vous avez sorti du livre de Luigi pour mettre dans votre film?
D'abord, il faut dire que je connaissais Pirandello surtout comme auteur dramatique. C'est lui qui a écrit les 6 personnages en quête d'auteur, chacun sa vérité. Il a gagné le Nobel en 22, je pense, le Nobel de littérature. Mais je ne connaissais pas ses récits. Alors, il a écrit plus de 300 nouvelles dans sa vie. Et je suis tombé sur celle-là que j'ai trouvée extraordinaire. Alors, j'ai eu envie de transposer ça presque à la même époque. Pirandello a écrit cette nouvelle-là dans les années 20. Mais j'ai choisi de l'enquébécoiser, si je peux dire. Le conflit de classe qui est dans le film, parce que, Madame Rose est une fille de bourgeois, une fille de notable, et son mari, lui, est un fils d'ouvrier. Et ça n'existe pas dans la nouvelle de Pirandello. J'ai eu envie de faire ça parce que ça me semblait étoffer les rapports entre les deux personnages. Ça révélait tout un arrière-plan social. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de tourner cette histoire-là à Trois-Rivières. Trois-Rivières qui est une ville de notables, qui est la ville de Duplessis, mais qui était aussi une très grande ville industrielle. La plus grande usine de papier au monde se trouvait à Trois-Rivières à cette époque-là. Alors, c'est vraiment la collision, la rencontre de deux mondes. Alors donc, il y a tout un... À la relation maritale de Rose et de son mari s'ajoute tout un arrière-plan social qui complexifie la trame. Et j'ai eu envie de faire ça. Et en plus, la vieille ville de Trois-Rivières est une splendeur. C'est tout petit, mais c'est très beau. J'avais envie de tourner là.
Cette année, à Ciné Franco, la programmatrice a justement choisi le thème de l'amour, qui est un thème assez vaste, mais elle a choisi d'expliciter chacun de ses choix de films à travers ce thème. Dans votre film, justement, il y a un... L'amour n'existe pas. C'est un peu le manque de l'amour entre un mari et sa femme, où il n'y a plus d'amour, entre les enfants et le père et les enfants et la mère. Pour vous, l'amour, c'était un thème du film ou c'était quelque chose qui est vraiment tellement lointain de ces personnages?
Ah non, absolument pas. C'est très important. D'une certaine façon, l'amour est au centre du film. C'est des gens qui s'aiment mal. Rose aime encore son mari, elle le désire, mais elle sait très bien que si jamais elle cède à son désir à lui, ils vont se retrouver au lit, puis il va recommencer à boire puis à courir comme avant. Alors, elle est à la fois attirée par ses désirs puis repoussée par son sens du devoir ou ses conceptions catholiques. Mais elle l'aime, et c'est pareil pour lui. Et lui, la désire, parce que bon, on sent à un moment donné dans les dialogues, ils se sont déjà aimés, ces deux-là. Le curé lui demande à un moment donné, « Mais vous l'avez aimé, votre mari ?» Elle fait un petit signe de tête et on voit bien ses yeux qui pleurent. Elle l'a aimé. Alors, c'est des gens qui s'aiment mal, comme presque tout le monde sur la planète.
Et dans la programmation de Ciné Franco, on a pu aussi voir Rodéo, un road movie de Joël Desjardins-Paquette, sorti l'année dernière au Canada.
Joël Desjardins-Paquette, on dit que c'est votre premier long-métrage, mais ce n'est pas du tout votre entrée dans le monde du cinéma. Vous avez déjà réalisé des nombreuses productions, de la pub à la télévision, et notamment trois courts-métrages primés que je vais rappeler ici. Paparman, qui a été présenté à TIFF en 2012 et qui a gagné le prix de la meilleure comédie à Yorkton Film Festival. Sans dehors ni dedans, qui a gagné le grand prix du jury au Festival des films de la Relève en 2014. Et Flo Gris, qui a été présenté en première au Festival international du film de Rotterdam, un prestigieux festival en Europe, en 2016. Est-ce que maintenant, quand même, passer au long métrage, pour vous, ça a été une étape franchement différente de tout ce que vous aviez déjà réalisé jusqu'à présent?
Ça a été une étape plus grande, mais je pense que c'était la suite logique d'avoir comme travaillé sur différents courts-métrages, d'avoir un peu fait mes dents là, sur la réalisation, tester des choses, des personnages, des idées, tout ça. Je pense que tout s'est concrétisé dans l'écriture, puis la pré-production, puis la production de Rodéo. Juste par rapport à la scénarisation, ma co-scénariste et moi, là, Sarah Lévesque, on a travaillé à peu près, je pense que c'est presque 6 ans là, à partir de l'embryon d'idée. J'ai travaillé 1 an seule, je l'ai approchée pour être ma conseillère à la scénarisation, puis elle avait aimé sa lecture, elle m'a dit « Hey, j'ai envie qu'on l'écrive à 4 mains », puis elle avait tellement des bonnes idées, j'ai vraiment aimé mes échanges avec elle, j'ai fait « Ok, let's go », j'avais jamais co-écrit. Puis avec les rondes, bien sûr, de dépôt, Sodec, Calque, bon, tous ces dépôts pour de l'aide à la scénarisation pour pouvoir achever le scénario. Fait que c'est ça, tout ce processus-là, puis retravailler le projet à chaque fois. C'est sûr que c'était pas 6 ans à temps plein, mais quand même, ça a été beaucoup de boulot. Puis bien sûr, tout est plus gros pour un long métrage. La pré-production, on a eu un bon 2 mois de pré-prod avec l'équipe, mais en amont, j'ai été comme 6 mois là, vraiment à être que sur ça. On a eu un 33 jours. Ben, en fait, la directrice photo et moi, on a fait 40 jours de tournage, échelonné sur un 2 mois et demi, puis 1 an de post-production. Donc, c'est sûr et certain que c'est plus costaud qu'un court.
Et vous parlez de 2 choses qui m'intéressent. Déjà, le fait que c'est un film qui est un road movie, pour en parler sans rien dévoiler non plus, un road movie dans un camion, dans un truck, qui traverse le Canada. Et l'autre chose qui m'intéresse, et que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer, que pas mal de vos chefs de poste sont des femmes, notamment la directrice photo, qui n'apparaît pas dans votre filmographie antécédente. Donc j'étais curieuse de savoir si c'était un choix volontaire ou si vous avez casté par affinité artistique.
Ben c'est un peu tout ça, en fait. On a tourné, nous, on était prêts à tourner au début de la pandémie, donc il a fallu demander une dérogation pour pouvoir garder les sous de la SODEC et Téléfilm pour reporter le tournage un an plus tard. C'était un été excessivement chargé. C'est comme il y avait à peu près le double de production qui était en cours, en plus, avec les tournages américains. Donc, c'était un été vraiment de pénurie de main-d'œuvre, donc difficile. Fait que, bref, il a fallu que je fasse des rencontres de nouveaux directeurs ou directrices photo. Puis Juliette, elle était quand même très jeune, mais hyper talentueuse. On s'est rencontrés, les références cinématographiques, les discussions qu'on avait de création, ça a vraiment collé. Puis oui, c'est vrai que je trouvais ça le fun de faire un film de truck avec une équipe de femmes, mais à la base, c'est vraiment, je pense, une question de sensibilité au départ là, qui a comme formé l'équipe. Puis il y avait beaucoup de nouveaux collaborateurs là, sur un premier long-métrage. Il y avait quelque chose de très insécurisant, mais quand même hyper stimulant là, de rencontrer des nouvelles personnes, puis avoir des nouvelles perspectives, puis fait que voilà.
Effectivement, l'image est très jolie, on peut saluer son travail. Le film est donc un road movie et on passe par l'Ontario qui est mentionné. On y passe un petit moment, j'ai l'impression que toutes les frontières ne sont pas forcément très explicites.
C'est sûr que nous, on a passé assez vite le tournage. On a triché l'Ontario à certains moments. Donc, je ne veux pas, fallait tourner en périphérie de Montréal quand même la majorité du temps. Fait que c'est sûr qu'il y a des stations-service, puis des casse-croûtes, des choses comme ça qui ont été trichées. Mais on a fait la vraie traversée canadienne en toute petite équipe là, de 6 personnes pour faire tous les plans de paysage, puis les plans extérieurs avec le camion et tout ça. Fait que, mais oui, j'ai bien hâte d'aller présenter en Ontario.
La thématique de Ciné Franco à Toronto, qui cette année est l'amour, c'est une histoire entre un père et sa fille et une histoire aussi de couple qui ne fonctionne pas. Les acteurs, comment ils ont travaillé ensemble? Parce que la jeune fille est juste phénoménale, elle a vraiment une personnalité extraordinaire, que ce soit son rôle ou même elle, la façon dont elle l'incarne. Comment la relation s'est développée avec son père, qui est vraiment très bon dans son rôle également?
Ah oui, ben Lilou et Maxime, j'ai été hyper privilégiée de travailler avec eux deux. Ben lors du casting, on a comme rappelé en casting final trois comédiens pour le rôle du père, trois comédiennes pour le rôle de la petite Lily dans le film. Puis il y a tout de suite eu un match. Ils étaient dans la salle d'attente, on les entendait rire. Fait qu'il y a déjà eu une chimie qui opérait entre les deux. Puis tu sais, Maxime est papa d'une petite fille française qui a 4 ans. Donc lui, c'est sûr et certain que comme j'aurais pas pu jouer ce rôle-là il y a 4 ans. T'sais, là, je comprends toute l'intensité que peut comporter cette espèce de peur de l'absence ou l'idée de la perte que le papa expérimente dans le film. Puis, ben, la façon que j'ai travaillé avec eux, c'était super important pour moi de faire comme plusieurs sessions de lecture au départ avec les deux pour juste. C'est pas un film très verbeux, il n'y a pas énormément de dialogue, donc je voulais être certaine que toutes les intentions de chacune des scènes soient hyper bien comprises par Lilou, puis ben Max également, puis tu sais les entre lignes que les intentions soient, c'est ça, les intentions soient bien comprises. Fait qu'on a fait comme à peu près 2 ou 3 lectures complètes du scénario, puis Lilou, ben elle a vécu aussi un conflit de séparation, fait que c'est sûr qu'elle allait chercher en elle des choses, des émotions qu'elle connaissait aussi. Fait que cette espèce de colère là, il y avait une charge émotionnelle qui était quand même déjà tangible ou en tout cas comprise par Lilou. Puis ben on a fait, je voulais pas qu'ils répètent leur dialogue de façon trop robotique, parce que des fois avec les enfants, Lilou ne le fait pas, mais quand même souvent avec les enfants, quand plus ils répètent, plus ça cristallise une espèce de façon de livrer les répliques. Puis quand tu veux changer un peu l'intention de jeu, c'est vraiment difficile. Fait que dans le fond, j'ai fait OK. Là, les intentions de toutes les scènes sont hyper bien maîtrisées. On oublie le texte. Puis à chaque fois qu'on se voyait, on a à peu près fait une dizaine de week-ends où on se rencontrait. Puis on est allé jouer au Mipot, on est allé faire des soupers pizza, on est allé comme faire des activités les trois ensemble, parce que je voulais vraiment que ce lien-là, et Maxime et Lilou, mais aussi avec moi, qu'on ait ce naturel-là, puis qu'on se connaisse comme assez bien avant de commencer le tournage pour que ça soit pas juste une relation de travail, mais qu'il y ait comme cette relation de proximité-là. Puis je pense, en tout cas, je suis vraiment contente. Je me levais chaque matin, puis c'était à eux deux que je pensais, puis j'avais hâte de les retrouver. Puis oui, l'amour filial, c'est fort, puis je pense qu'ils ont réussi à transposer ça à l'écran.
On est content de passer autant de temps avec eux alors qu'on est quand même enfermé dans une cabine d'un truck malgré le fait qu'on traverse le Canada. C'est beau, je me demandais si c'était votre
Merci.
expérience avec Les Argonautes, qui est une série avec des enfants, qui vous a permis justement peut-être de savoir comment mieux diriger les enfants.
Ben, c'est sûr et certain que j'aime énormément les enfants. J'ai beaucoup travaillé dans justement, j'ai la série jeunesse dont vous parlez, des vidéoclips. J'ai souvent même dans Sors dehors, dès dedans, ce petit garçon de 10 ans qui était dans le film aussi. J'ai cette connexion-là. En fait, je trouve ça presque plus simple, même travailler avec des enfants. Il y a quelque chose de tellement brut et dès que ça va pas fonctionner, ils vont te le dire. Je sais pas, j'aime aussi le côté décomplexé qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont à jouer. Il y a quelque chose de jeu que j'aime beaucoup. Mais oui, c'est sûr que c'est énormément de travail aussi. C'est juste que c'est d'aborder le travail différemment. Puis je pense que ça a servi, c'est sûr, les projets précédents, là.
C'était une entrevue avec Marine Otogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local pour Choc FM 105.1.